Merci encore, Seigneur Jésus, pour cette matinée. Merci pour la parole, merci pour la louange, merci parce qu'on croit qu'il y a des guérisons qui se passent dans nos corps, dans nos âmes, dans notre esprit, alors que nous te louons, alors que nous partageons la parole. Merci parce que tu agis aujourd'hui, merci parce que ton bras n'est pas trop court pour sauver et guérir, et merci de nous visiter encore et encore. Amen. Alors, dernièrement, oui, c'est aussi une astuce que je vous donne, c'est quand vous partagez parfois avec un pasteur, parfois il chope ce que vous dites, et après ça lui donne un motif ou une raison pour faire une prédication. Donc je vous le dis, donc faites attention à ce que vous partagez. Et en fait, il y a une quinzaine de jours, trois semaines à peu près, je partageais avec une sœur qui me disait « Moi, je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non, j'ai beaucoup de mal à dire non. » Et il se trouve que depuis 15 jours, 3 semaines, et même bien avant, j'ai eu plusieurs fois ces échanges-là avec des gens qui me disaient ben, « J'ai du mal à dire non. » Et en fait, en méditant là-dessus, en réfléchissant là-dessus, je pense que ça concerne beaucoup d'entre nous. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal ou des difficultés à dire non. C'est bon ? Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Par exemple, tu es peut-être embêté, c'est dans la vie de tous les jours, hein. Tu es peut-être embêté parce qu'à un moment donné, tu as discuté avec quelqu'un, un commerçant, et tu te sens peut-être obligé de lui acheter un petit truc parce que tu te rends compte qu'il t'a répondu, alors même que l'objet, au final, ne t'intéresse pas. Ça peut aller jusque-là. Je vois des sourires, alors je pense qu'il y a des gens qui sont concernés, mais c'est des exemples comme ça. Ou alors, un frère ou une sœur de l'Église te demande de l'aide. Et comme on est chrétien, comme on est bienveillant, comme on veut aider notre prochain, ben, tu vas dire oui, tu ne vas même pas te poser la question. Alors d'un côté, c'est super parce que ça reflète un cœur de serviteur, mais de l'autre, ça peut être parfois problématique. D'accord ? Ce matin, je ne parle pas du sujet de dire non au péché, qui est un vrai sujet, hein, que l'on partage aussi régulièrement. Ce n'est pas le non au péché où je veux mettre l'accent ce matin, je veux mettre l'accent plus sur les relations entre nous, sur les relations dans votre travail, sur les relations dans votre famille, sur les relations du quotidien, où parfois, malheureusement, nous avons du mal à dire non, alors qu'on aurait dû dire non. Et aujourd'hui, on est en plus dans une génération, j'ai l'impression, où beaucoup de choses nous poussent à dire oui. J'ai déjà dit, la demande d'un frère ou d'une sœur, on va avoir naturellement envie de dire oui, parce qu'on est bienveillant, parce qu'on est serviteur, parce qu'on aime son prochain. Donc, naturellement, on va être poussé à dire oui. La pression sociale aussi. Si vous êtes quelqu'un, notamment si vous êtes un jeune, et il y a une sortie un samedi soir, ben, ça va peut-être être plus compliqué de dire non, parce que tous les autres y sont. Donc, alors, quand vous avez 45 ans, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ça. Mais quand vous êtes jeune, ça peut être difficile de dire non, parce qu'il y a la sortie, et moi, je serai peut-être le seul qui y sera pas. Et il y a une expression qui dit, je ne sais pas si vous connaissez, alors je crois que c'est un très vieux, désolé pour la référence, mais je crois que c'est un très vieux chant de Claude François, et ce n'était pas un exemple dans la vie de tous les jours, mais la chanson, je crois qu'elle dit, il a dit oui avec la tête, et il a dit non avec le cœur.
Quoi ?
Il a dit oui avec la tête, et il a dit non avec le cœur. Et je ne voudrais pas qu'on soit nombreux à vivre comme ça, où on dit oui, de notre bouche, il sort un oui, alors que dans notre cœur, c'est un non. Et nous allons voir pourquoi c'est pas bien, c'est pas convenable de fonctionner comme ça. Parce que ce que ça va faire que les circonstances vont diriger ton emploi du temps. Parce que si demain, il y a 50 personnes qui te demandent quelque chose et que 50 personnes te disent oui, c'est plus toi qui es maître de ton emploi du temps. On est d'accord ? Et c'est fondamental d'apprendre à dire non. Je pense que c'est un gage de protection, c'est un gage pour rester fidèle à Dieu et c'est un gage pour préserver notre paix intérieure. Je te laisse faire. Donc le titre, c'est « Apprendre à dire non pour mieux dire oui à Dieu ». Apprendre à dire non pour mieux dire oui à Dieu. Et dessous, je vous ai mis un sous-titre. Alors, ce n'est pas pour être familier, mais il m'a plu mon sous-titre. « Tu es fichu si tu ne dis jamais non ». Tu es fichu si tu ne dis jamais non. C'est bon ? Il y a 4 points, dont le 4e qui sera très rapide, où on verra juste quelque chose d'un petit peu plus pratique. Mais sur le premier, on va rester sur dire non, c'est rester concentré sur ce que Dieu fait. Dire non, c'est rester concentré sur ce que Dieu fait. C'est protéger sa mission, c'est protéger ce à quoi Dieu nous appelle. On lit ensemble Marc 1, versets 32 à 38. Le soir, après le, donc c'est Jésus, hein. Après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, donc Jésus se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans des bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Il y a une foule. Une foule, c'est pas 10 personnes ou 20 personnes. Une foule, on peut imaginer que c'est tout le village qui se réunit. Parce qu'on a entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui faisait des miracles et des guérisons et qui chassait les démons. C'est ce qui se passe depuis 2000 ans. D'accord ? On croit évidemment que Dieu guérit, que Dieu intervient, que Dieu libère les gens. On le croit. Et si on est là ce matin, c'est qu'on y croit. Et les gens sont attirés par ça. La foule à l'époque est attirée par ça parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui guérit les gens et qui rend libre les gens. Pour autant, Jésus, il se lève le matin de bonne heure, il fait très sombre et il se retire. Et les disciples, ils disent, tout le monde te cherche, tous te cherchent, tout le monde te cherche. Et Jésus répond, allons ailleurs, car c'est pour cela que je suis venu. Alors, je ne sais pas vous, mais c'est un peu choquant la réponse. Pourquoi tout le monde le cherche ? Parce qu'on sait que quand Jésus est là, quand la présence de Dieu est là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et il y a une foule, il y a des besoins. Vous vous mettez vous à la place. Imaginez la scène. Il y a des besoins. Je ne peux pas aller ailleurs. Il faut que je dise oui. Il faut que je réponde à cette foule qui me cherche, à cette foule qui cherche la guérison. C'est des malades en face de nous. C'est des gens qui ont besoin de délivrance. Et pour autant, Jésus se retire. Alors même que tout le monde le cherche. Toute la foule le cherche. Donc si Jésus, il a été capable de dire non à la foule, c'est parce qu'il était resté centré sur ce pourquoi il était là, sur ce à quoi il était appelé à faire. Ça veut pas dire qu'il ne voulait pas guérir ou chasser les démons. Ça veut juste dire qu'il avait, en ce moment-là, à cet endroit-là, une autre mission. Amen. C'est un peu choquant pour nous, hein, notamment pour nous qui avons beaucoup de mal à dire non, parce que toujours il faut aller courir, parce qu'il y a toujours quelqu'un autour de moi qui a besoin. Et plus l'Église grandit, je vous le dis, plus il y a encore de besoins. Plus il y a encore de gens malades, plus il y a encore de gens qui souffrent, plus il y a encore de gens qui ont besoin d'être visités à l'hôpital, dans les prisons, etc. Plus il y a encore de problèmes de couple, plus il y a encore de gens qui ont besoin de délivrance, plus il y a encore de gens qui ont besoin de prière, etc. Et là, on a cet exemple-là où c'est la même situation que ce qu'on vit. C'est que Jésus, il pouvait répondre. Si on va plus loin, est-ce qu'il n'aurait pas dû répondre ? Alors, on ne se permet pas, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu, on sait qu'elle est parfaite, et vous avez eu une répétition le week-end dernier et le samedi dernier. Il n'y a pas d'erreur dans la parole. Donc, pourquoi Jésus il se retire ? Parce qu'il sait qu'il y a autre chose à faire en ce moment-là. Alors même que tout ce qu'il faisait était légitime, et en plus, était très très bien fait. Amen. Du coup, ça nous sert d'exemple, ça nous sert d'enseignement, pour que si Jésus il a été capable d'aller ailleurs, d'aller s'isoler, pour que nous aussi, nous apprenions à le faire. Pour que nous aussi, nous ne soyons pas contraints par les gens, par la situation, peut-être par mon travail, peut-être par les demandes de ma famille, y compris les demandes de ma famille, y compris mon travail, y compris toutes les sollicitations que je peux avoir, ben peut-être que malgré ou avec tout ça, il faut quand même que moi j'aille à part. Amen. Et Jésus aurait pu céder à la pression de la foule, parce que les besoins étaient nombreux, mais il savait que son ministère ne dépendait pas des attentes humaines. Il y a les attentes humaines et il y a le plan de Dieu. Bien sûr que très souvent, ça se rencontre parce que Dieu vient pour guérir, pour délivrer, pour libérer. Mais là, Jésus a juste dit, je vais faire ce que mon Père me dit de faire. Donc même s'il y a les attentes des hommes qui sont là, je vais quand même faire autre chose. Amen. Ça peut être, par exemple, dire non. Donc Jésus, alors là, ce n'était pas une distraction, mais pour nous, si on l'interprète pour aujourd'hui, si on l'illustre pour aujourd'hui, peut-être que nous, c'est un exemple pour nous dire, ben, peut-être, disons non, à la distraction. On est très vite distrait aujourd'hui. Très, très vite. Alors moi, je ne suis pas... Je ne suis pas un fan du téléphone portable. Donc, si vous voulez, moi, quand je suis à rendez-vous, mon téléphone, il est en silencieux. Et quand je sors d'un rendez-vous qui a duré 2 heures ou 3 heures, il y a des fois où j'ai 10 messages WhatsApp, 5 appels, et quand en plus je rappelle parfois j'essaye de rappeler les gens, ils me disent « Mais je t'ai appelé !» Ouais. Mais en fait, le rendez-vous où j'étais 2 heures ou 3 heures avec une personne, il était plus important que ton téléphone. Et mon téléphone, il est coupé. Parce que sinon, je suis en rendez-vous avec quelqu'un, mais j'accepte, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, c'est pour vous expliquer, si vous avez quelqu'un de très proche qui est malade et où il y a une urgence, vous dites à la personne, je laisse mon téléphone, vous voyez. Mais 9 fois sur 10, la conversation téléphonique peut avoir lieu plus tard. Et notamment, je pense, sur les plus jeunes, on en est, et même parfois moins jeunes, mais on en est incapable. C'est-à-dire qu'un téléphone qui sonne, on est incapable de se dire, ben, je rappellerai ce soir. Mais ça veut dire que moi, dans la gestion de mon emploi du temps, ben, mon emploi du temps, il est interrompu. Et suivant que, qui c'est au téléphone, si je sais que j'en ai pour une demi-heure, il est encore plus interrompu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une distraction. Moi, je sais que suivant ce que je fais, si je ne le mets pas en mode avion même, ben, vous êtes interpellé. Et je ne suis pas du tout un accro au téléphone. Mais alors, du coup, je me dis, ceux qui utilisent beaucoup, ben, c'est des défis. Et c'est des distractions. Et entre guillemets, tout n'est pas du malin, mais entre guillemets, le diable, il s'amuse avec ça. Il vous donne 2-3 distractions. Vous êtes en train de méditer, de réfléchir, et votre truc, tac, il est coupé, parce que vous avez une notification qui ne sert à rien. Je caricature, mais ça peut être un peu ça. Oui ? Donc, dire non à la distraction, dire non à l'activisme, à l'activité. On a des gens où on a l'impression qu'ils sont des drogués par tout ce qu'il y a à faire. Et parfois, là-dessus, on se met un petit peu un vernis de chrétien, mais c'est pour Dieu, et on a l'impression que ça justifie mon style de vie qui est profondément déséquilibré et instable. Parce que je cours partout, parce qu'il y a tout à faire. Donc, dire non à un certain nombre d'activités pour rester centré sur les choses de Dieu, je pense que c'est bien. Et on peut être gagné par ça dans l'Église. Parce que dans l'Église, les besoins sont énormes. Amen. Dieu t'attend davantage dans ton lieu secret que dans le service que tu vas faire. Alors on dit ça, j'ouvre la parenthèse, en même temps on a besoin de plein de serviteurs. On a besoin de plein de gens pour servir. Oui. Pour autant, on le vit de manière sereine, stable, équilibrée. On n'est pas là pour faire toutes les activités qu'il y a à faire. Amen. Dire non aux attentes humaines pour rester dans la volonté de Dieu. Dire non aux attentes humaines pour rester dans la volonté de Dieu. C'est fondamental. Et justement, si on ne sait pas dire non, on va se planter. Parce qu'on va être noyé sous les demandes, sous les besoins, sous les relations que nous avons. Et l'important, c'est de rester centré sur la volonté de Dieu. Une illustration, cette semaine, je crois, est sortie. Je pense qu'il y en a pas mal qui regardent les émissions Légendes, vous regardez. Et il y avait une interview de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, c'était le patron de Renault-Nissan. Il y a eu un petit problème avec la prison au Japon, il s'est enfui. Mais Carlos Ghosn, pendant des années, il a géré Renault-Nissan. Et dans l'interview, je regarde un extrait, et il dit, moi, quand j'ai pris la tête de Renault et de Nissan, il y avait l'entreprise et ma famille. Ma famille étant ma femme, mes enfants, nos frères et sœurs. Point. Et il dit ces phrases, c'était au détriment de toute autre vie sociale. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien, c'est une illustration. Mais pour vous dire que cette personne-là, à partir du moment où elle avait une mission, elle savait quelle était sa mission. J'ai trouvé très équilibré le fait de dire ma femme, mes enfants, les frères et sœurs, mais il n'y avait pas de vie sociale. Et il a dit, c'était au détriment de la vie sociale. Ça veut dire que le samedi soir, ben, on n'allait pas manger chez les amis ne venaient pas manger à la maison. Je l'imagine comme ça. Et il n'y avait quasiment pas de vie sociale. Parce que son objectif, c'était les deux entreprises-là, enfin, notamment ces deux entreprises-là à restructurer, et sa famille. Et c'était point. Et nous, quand on sert Dieu, à combien plus forte raison? Alors, je ne dis pas que ça doit être, voilà, l'Église et juste ma femme. Je ne dis pas ça. Mais je vous donne un exemple, que quand les gens ils savent ce qu'ils font, ben les choses se mettent en place. Et vous êtes obligés, nous sommes obligés, de dire non à tout le reste. Oui ? Enfin, oui. Ouais, vous avez compris. On est obligé de dire non à beaucoup d'autres choses parce qu'on veut juste faire la volonté de Dieu. Et les autres choses prennent leur place. Et si nous ne savons pas dire non, on aura du mal à accomplir vraiment la volonté de Dieu complètement. Amen. Dire non, c'est aussi dire non à certaines demandes pour préserver, nos capacités. Et c'est un piège du diable, réellement, je le crois, de nous pousser à avoir plein d'activités. Vous regardez l'Église persécutée, il y a plein de témoignages où les pasteurs, quand ils sont emprisonnés, l'Église grandit. Ça veut dire que des gens qui avant, alors ça ne veut pas dire que j'ai envie d'aller en prison pour que l'Église grandisse, mais c'est, ça veut dire que des gens qui avant étaient en charge et en responsabilité, le jour où ils ne sont plus là à cause de la persécution, l'Église de Jésus-Christ, elle grandit quand même. Amen. Et on le voit, ça veut dire qu'il nous faut apprendre à passer plus de temps dans le lieu secret que dans tout ce que nous faisons. Et c'est un défi parce qu'il y a une agitation autour. Et si nous ne savons pas dire non, ça va être compliqué. Amen. Est-ce que tu as le syndrome de « je suis indispensable »? Je suis indispensable. Je ne peux pas dire non. Parfois, les chrétiens sont épuisés. Parfois, parce qu'on en partage, des pasteurs sont épuisés. Et réellement, je ne pense pas que ce soit parce que Dieu nous en demande trop. Je pense que c'est parce que nous avons un déséquilibre dans notre vie. Ce n'est pas parce que Dieu nous en demande trop, j'en suis sûr. On peut très vite courir alors que notre être intérieur nous crie « stop ». Mais comme on est agité de partout, on n'entend pas. Petit exemple, quand il y a eu la période du Covid, c'est vrai qu'avant, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de réunions, mais je ne m'étais jamais posé la question. Et la période du Covid, du jour au lendemain, je n'ai plus de réunions. Du jour au lendemain, je retrouve du temps pour lire. Alors, c'est parce qu'avant, ce n'était pas assez équilibré, parce que je j'étais trop décousu, j'allais dans trop de choses. Mais du jour au lendemain, je retrouve du temps de lire, pour lire davantage. Et ça m'a fait un bien de dingue. Vous n'avez pas d'idée. Et je me suis dit, même après le Covid, ça ne reviendra jamais comme avant. Et les gens dans l'entourage, ils le savent. Il y a des trucs où c'est non et non négociable. Parce qu'aussi, au fil des années, Dieu, m'a appris, m'a formé là-dedans, à apprendre à dire non. Ça ne veut pas dire que je rejette les choses, que je ne les fais pas, mais juste de dire non, parce que je sais ce à quoi Dieu m'appelle. Amen. Un autre exemple, il y a des années de ça, on était jeunes et beaux, on était musclés comme maintenant. Mais j'avais acheté avec un collègue, un ami du travail, j'avais acheté un camion. Et du coup, beaucoup de gens dans l'église se sont rendus compte que finalement, un camion, c'est super pratique. En plus, tu payes pas parce que tu demandes à Pierre. Et comme Pierre, on était plusieurs jeunes, en plus, tu peux aussi lui demander de t'aider à faire ton déménagement. Et à un moment, on s'est dit, on va ouvrir une entreprise de déménagement. Parce que Pierre, tous les week-ends, et d'autres jeunes, évidemment, tous les week-ends, ils se tapaient des déménagements. Ben, c'est gratuit, on a le camion, en plus, ils sont sympas. Et à un moment donné, donc j'ai dit, écoutez, je me suis trouvé une raison. Elle n'est pas bonne, mais j'ai confié à deux, je ne sais pas où ils sont, ils se cachent, Sylvain et Martial, pour ne pas les nommer, je leur ai dit, écoutez, vous avez le droit de conduire le camion parce que je vous fais confiance. Et moi, je disais aux gens, écoutez, je n'ai pas le temps, mais Sylvain et Martial, eux, ils peuvent conduire le camion, ils vous aideront. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les deux, au bout d'un moment, il y en a un qui est revenu me voir en me disant, l'histoire des clés, je veux bien ne plus avoir le droit de conduire le camion. D'accord ? Parce qu'on aurait passé notre vie à faire ça. Et si le samedi, je fais un déménagement, ben, ça veut dire que je passe encore ma journée à faire un déménagement. Et ça crée du déséquilibre et ce n'est pas mon job. Ce n'est pas que je n'aime pas rendre service. C'est qu'aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie qui est différente. Et à l'époque, je savais moins dire non. Donc, on faisait tout ça. Et une fois, ce qui m'a fait un déclic, et je pense que ça vient de Dieu, c'est que j'ai aidé une sœur à déménager. Et quand on arrive, il y a une perche, une grosse perche qui a été tendue. Mais Pierre, est-ce que tu ne pourrais pas me repeindre le salon ? Détapisser la chambre, repeindre le salon, et là, c'était dit gentiment, vous voyez, c'est la sœur. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Soit chez moi, soit chez elle, soit chez les deux, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, on peut être happé par tout ça. Et Dieu, et après, je me suis dit, mais attends, elle a des enfants aussi, la sœur. Et puis voilà, à un moment donné, je ne vais pas refaire l'appartement, la peinture, le déménagement de toute l'église. Oui ? Pour savoir si un raisonnement il est juste, je trouve, c'est quelqu'un qui nous l'a. Pour savoir si un raisonnement ou une théorie est juste, vous la poussez à l'extrême. Je rends service aux frères et aux sœurs. Ouais, super. Mais si je rends tout le temps service, vous voyez que ça ne va pas marcher. Donc, il nous faut apprendre à dire non. Pareil, au début de notre mariage, il y a une sœur qui venait régulièrement à la maison. Et elle venait, c'était une amie de ma femme, et elle venait à l'improviste tout le temps. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Après, ça se passait bien, elle était sympa, on était content de la voir. Mais tu te rends compte que ça... Du coup, c'est pas toi qui donne le ton ou le rythme de ta vie. Parce que tu as quelqu'un qui passe à l'improviste tout le temps, souvent. D'accord ? Alors, on passe à l'improviste chez l'un chez l'autre quand on se connaît, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est très souvent, c'est pas bon. Et tu te dis, mais dans mon rythme, dans mon ton, dans le ton que je veux donner à ma vie, ce n'est pas normal. Donc, il faut apprendre à... Et c'est aussi quelque chose, quand vous dites non à une personne comme ça, où vous formez la personne. C'est pas juste moi me protéger. Ça va bien au-delà. C'est que moi, en lui expliquant « tu ne peux pas faire ça », je l'apprends à elle à équilibrer sa vie. Et c'est important. Ce n'est pas juste dire non pour me protéger, c'est aussi dire non pour elle, lui apprendre à gérer sa vie. Amen. Quand tu es centré sur ce que Dieu fait, alors c'est beaucoup plus facile de dire non, car tu sais où tu vas. Je répète, quand tu es centré sur ce que Dieu fait, alors c'est beaucoup plus facile de dire non, car tu sais où tu vas. Amen. Quand tu as défini ce qui t'importe le plus, c'est beaucoup plus facile de décider ensuite. Quand on a défini ce qui nous importe le plus, c'est beaucoup plus facile de prendre les décisions. Un exemple, combien il y en a qui sont venus du pays de Montbéliard ce matin ? Vous levez la main. J'imagine que vous avez pris l'autoroute. Vous avez pris l'autoroute ? L'autoroute, alors je ne sais pas le nombre de sorties et tout ça. Imaginons vous prenez à l'Axone. Vous rentrez sur l'autoroute à l'Axone pour sortir à Bavier. C'est ça ? Pour sortir là à Bavier. Entre les deux, il y a peut-être 3-4 sorties. Quatre sorties. Vous n'êtes pas demandé à Brognard, est-ce qu'il faut que je sorte ? Tu ne t'es même pas posé la question. Sortie de Dell, tu ne t'es pas posé la question, est-ce qu'il faut que je sorte à Dell ? Parce que tu sais où tu vas. Notre vie, elle est exactement pareille. Je sais où je vais, ben vous allez voir que la vie va se simplifier. Parce qu'il y a beaucoup de noms que je n'ai pas besoin de réfléchir des dizaines, des heures, des minutes, savoir comment je vais décider, puisque je sais où je vais. Je reformule ou c'est bon ? Si je sais où je vais, les autres choses, sur l'autoroute, il n'y a pas un instant où à chaque sortie, je me dis, est-ce que je dois sortir là ? Je sais où je vais. Le non, il est acquis. Il n'est même pas à décider. Émotionnellement, il me coûte zéro. Je sais où je vais. Notre vie avec Dieu est exactement pareille. Amen. On peut le dire, Johanna, comme on est invité assez souvent, en fait, souvent on est invité et souvent les gens ils veulent en profiter aussi pour avoir du temps pour discuter. Sauf que ça marche quand tu es invité 3 fois dans l'année. Quand tu pourrais être invité chaque week-end ou 3 fois dans le week-end, tu ne peux pas venir la veille pour qu'on passe un temps, alors même qu'on le souhaite. Tu vois, il y a tellement de demandes qu'aujourd'hui, tu ne peux pas. On le fait avec les ministères, avec les gens qui sont dans le service. Là, quand vous voyez les sœurs qui sont là, il y a Audrey Mac, il y a Stéphanie Rider, Castanou, je ne sais plus son prénom, Maud. Mais du coup, tu sais ta mission. Ce n'est pas qu'on est impoli et qu'on ne veut pas y aller la veille, mais quand les gens nous disent « venez la veille, on aura le temps de discuter », ben en fait, mon emploi du temps, il fait le même nombre d'heures à la journée que le tien. D'accord ? Donc on n'est pas impoli, on n'est pas orgueilleux, on n'est pas je ne sais pas quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, on est concentré sur ce que Dieu veut faire. Donc avec plaisir, si c'est une réunion, un endroit, un événement où on y va pour apporter l'onction, pour y aller, pourquoi on nous a appelés. Par contre, tout ce qui est autour, et parfois on rentre tard le soir, parce que le dimanche matin, on va être ici. Amen ? Parce qu'on sait que c'est notre mission. Mais c'est beaucoup plus facile de prendre la décision quand on sait qui on est et ce qu'on veut et la volonté de Dieu. C'est 10 fois plus facile. Amen. C'est ce que Paul dira dans 2 Timothée 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » À la fin, alors s'il y en a, oui, parce qu'il y en a qui m'avaient dit « c'est écrit un peu petit parfois ». Alors là, ce n'est pas forcément que vous avez été guéri, hein, c'est pas forcément que vous avez été guéri, mais c'est écrit très gros. D'accord ? Là, c'est Paul à la fin de sa vie qui va dire ça. Et c'est comme si c'était évident. On sent que ce n'est pas quelqu'un qui était à gauche ou à droite, qui se baladait. On a l'impression que c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Amen. Deuxième idée, dire non, c'est obéir à Dieu avant tout. Donc la première, c'était dire non, c'est rester concentré sur ce que Dieu fait. C'est vraiment rester concentré. Et dire non, c'est aussi obéir à Dieu. C'est même obéir à Dieu avant tout, d'apprendre à dire non. Acte 5, versets 27 à 33. Après qu'ils les eurent, donc c'est Pierre et les disciples, qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner à ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme, le sang de Jésus. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bon, je développe pas la suite, mais on leur interdit quelque chose. Et là, Pierre et les disciples, ils disent, ben non. Ils ne le disent pas impoliment, mais en gros, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Ils auraient pu dire oui. Ils auraient pu dire oui, on va arrêter pour éviter la prison. Et ils ont dit non pour rester fidèles à l'enseignement de Jésus-Christ et à ce que Jésus leur avait enseigné de répandre le message de l'Évangile. Alors apprendre à dire non, c'est parfois, ou souvent, c'est aussi dire non au compromis. Donc quelqu'un qui me dit « j'ai beaucoup de mal à dire non », ben, je pense que ça doit être aussi compliqué quand il y a du compromis ou des choses où on a un doute. Donne juste un exemple. Vous avez, une fois, je suis chez le kiné pour des soins, et il me sort des aiguilles grandes comme ça. Et je lui dis « Non, veux pas ça, moi ». Et il me dit « Vous avez peur des aiguilles ?» Et non, la question, elle n'est pas « J'ai peur des aiguilles ou pas ?» Je ne suis pas fan des aiguilles, mais ce n'est pas ça. C'est que là, vous allez me faire quoi ? Il me dit « C'est de l'acupuncture, c'est juste pour aller chercher le truc et c'est bon. » Et je lui ai dit, et pourtant je le connaissais, je lui ai dit « Je vous aime bien, mais non merci. » Et en fait, après on a échangé dessus. Je lui ai dit « Parce que pour moi, il y a une dimension ésotérique, spirituelle, etc. Salut ! Il y a une direction ésotérique, spirituelle, etc. » Donc je lui ai dit « Je ne veux pas les aiguilles. » D'accord ? Et c'est pareil quand vous avez beaucoup de frères et sœurs, ben, pas de frères et sœurs, beaucoup de gens dans le monde séculier, on va dire, qui vous disent « Mais si je ne fais pas de blague, je ne m'en sors pas. » Vous l'attendez tous les jours, souvent, où vous travaillez. « Si je ne fais pas de travail au blague, je ne m'en sors pas. » Sauf que l'Évangile ne nous dit pas ça. Donc si on est frère et sœur, si on est disciple de Jésus-Christ, on ne fait pas de travail au black. Ce n'est même pas une discussion ou un débat. Enfin, je suis très heureux d'en discuter avec vous, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de débat. C'est noir sur blanc, c'est clair. Et dire non, c'est dire non à ce compromis-là. Amen. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire qu'il y a un siècle présent avec une mentalité. Ça fait 2000 ans que Dieu nous dit la même chose. De ne pas nous conformer au siècle présent. Non à la peur du regard des autres. Préfère la faveur de Dieu que celle des hommes. C'est que parfois, on a peur de dire non par rapport au regard que les gens vont avoir. D'accord ? Et ça s'apprend. Et la maturité, le fait de grandir avec Dieu, ben, je préfère avoir peur de ce que les gens vont dire, mais de savoir que Dieu il est avec moi. Parce que mon Dieu, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus puissant, beaucoup plus tout ce que vous voulez que les gens que j'ai autour de moi. Amen. Et parfois, parce que celle-là, je l'ai vécu souvent, on peut avoir tendance de dire oui pour avoir la paix. Alors, les enfants, c'est un très bon exemple, mais au-delà des enfants, c'est que parfois, on peut avoir tendance de dire oui pour avoir la paix. Je vous donne un exemple, c'est une fois, on avait un frère qui avait un projet dans l'église, et on s'est rencontrés, on a discuté plusieurs fois, et devant Dieu, je sentais, et les autres pasteurs sentaient aussi, que ce n'était pas ça. À la fois par rapport à la personne, à la fois par rapport au timing, à la fois par rapport à tout ce que vous voulez. Mais ce projet-là, aujourd'hui, enfin à ce moment-là, dans notre église, on ne pensait pas que ça venait de Dieu. Donc on l'a expliqué aux frères. Mais vous savez, quand vous. Derrière les conséquences, j'en sais rien. Quand je lui dis non, je ne sais pas les conséquences qu'il va y avoir derrière. Et à un instant dans votre tête, et je pense que on peut vivre ça au quotidien, c'est qu'on se dit, ben je dis oui, même si j'y crois pas trop à son truc, comme ça, je suis tranquille. Je vais en avoir un qui m'embêtera plus dans l'église. Vous voyez ? Et ça, vous mettez le parallèle dans votre travail, dans votre famille, dans tout ça. Parfois, on dit oui, juste pour avoir la paix. C'est pas ce qu'il faut faire. Hein. D'accord ? Et la maturité, c'est de dire non, parce que je pense que Dieu, c'était pas le bon timing, c'était pas la bonne personne, c'était pas le moment. Donc je l'ai expliqué au frère, je lui ai expliqué, mais c'était non. Amen. Je me rappelle aussi, c'était une collègue, mon travail d'avant, une collègue qui m'explique que, je ne sais plus, le week-end prochain, elle a sa gamine qui va dormir chez des amis à eux, mais elle n'est pas tranquille. Et je suis scotché. Alors nous, on était un peu des ayatollahs quand il était petit. Il n'a jamais dormi ailleurs que chez la belle-sœur. Et je lui explique, ben parce que tous les jours, enfin pas tous les jours, mais quand vous avez régulièrement des entretiens, je vous passe, mais sur les abus, toutes les choses, etc. Et dans ma maison, ça se passe d'une certaine manière, c'est pas pour qu'une fois il aille ailleurs et que ce soit n'importe quoi. Et la collègue, je lui dis, mais pourquoi tu l'envoies dormir ailleurs si t'es pas à l'aise? Et on a la conversation comme ça, quelques instants, je dis, c'est n'importe quoi. C'est quoi? C'est pour avoir une meilleure relation avec les amis? Et tu vas envoyer ta gamine à un endroit où t'es pas totalement à l'aise? Mais c'est non et non négociable. Ah mais c'est non. Par contre, les amis, moi je vais leur proposer. C'est que la gamine, elle vit de là chez toi. T'as vu de la gamine, elle dort, vous faites à la maison votre soirée, tout ce que tu veux. Et en plus, tu fais une soirée de dingue. Comme ça, l'autre gamine, elle voudra toujours venir chez toi. Et toi, tu n'auras jamais envoyé ta gamine là-bas. Mais ça, c'est... Mais, alors, ça me paraît évident. Évident. Et combien de fois j'ai eu cet échange où ils me disent, ouais, je ne suis pas totalement à l'aise. Mais si tu n'es pas à l'aise, la paix, c'est un signe de Dieu qui vit en nous, la paix. Si je ne suis pas à l'aise, on est d'accord. Et oui, et parfois le fait de dire oui, ce sera une fausse paix, et ce sera des problèmes beaucoup plus importants plus tard. Si au fond de toi, tu sais que c'est un non, comme l'exemple que je donnais avec le frère qui avait un projet dans l'église, si tu sais que c'est non, si jamais on avait dit oui, ça aurait été des problèmes encore plus grands plus tard. Et ça, avec l'expérience, j'en suis persuadé. Donc on cherche juste la pensée de Dieu, et les conséquences, j'ose pas le dire, mais les conséquences, c'est autre chose. Souvent, quand je passe du temps avec Dieu, je m'occupe pas des conséquences. Je m'occupe au maximum de chercher la pensée de Dieu. Les conséquences, c'est Dieu qui en prendra soin, c'est Dieu qui les gérera. Quand on prend nos décisions, on prend les décisions parce qu'on pense que c'est la pensée de Dieu. Amen. Et oui, par rapport à ça, c'est beaucoup mieux d'avoir un style de vie. Comme je vous disais, vous prenez l'autoroute de Montbéliard pour aller à Belfort, les sorties qui ne vous intéressent pas, vous ne les regardez même pas. Mais en fait, si dans notre vie, nous avons ce style de vie-là, il y aura beaucoup moins de fois où on va se poser des questions. Est-ce qu'il faut dire non? Est-ce qu'il faut dire oui? Parce qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on fait. Ce n'est pas quand la situation se présente qu'on réfléchit. Je reformule. Quand on est mature avec Christ, les situations qui se présentent, elles sont beaucoup plus faciles à gérer parce qu'on sait qui on est, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Si chaque fois qu'il y a une circonstance qui arrive, je passe 3 jours à me demander c'est oui, c'est non, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, c'est plus compliqué. Si on sait qui on est, et ça renvoie à notre identité, si on vit avec Dieu quotidiennement, on ne se pose pas les questions quand les circonstances arrivent, parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Amen ? C'est clair ça ou pas ? Je vous donne quelques exemples là-dessus. J'étais une fois à un séminaire avec des chrétiens et juristes. On était une quarantaine, il y avait une trentaine de professionnels, et il y avait 10 étudiants à peu près. Et c'était très drôle parce que les étudiants, fac de droit, ils se disaient tous... Mais demain, on va avoir un métier où il y aura des moments où ce sera limite, où ce sera, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il ne faut pas faire ça. Vous savez, quand vous, alors soit parce que vous défendez des gens qui ne sont pas, voilà, soit parce que vous rédigez des contrats et votre but, c'est de protéger votre client au mieux. Donc, ils avaient l'impression qu'ils allaient être régulièrement dans des situations sur la zone, vous savez, la zone grise, où ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, mais il faut le faire parce que c'est le boulot. Alors déjà, moi, je leur ai dit, vous êtes gentils les gars, mais ce n'est pas que la fac de droit, c'est tous les métiers qui sont comme ça. Hein, où il y a une zone où, voilà, comment on fait pour être droit devant Dieu sans aller sur cette zone-là. Je leur ai dit, c'est tous les métiers. Et surtout, je leur ai dit, mais c'est pas quand vous allez travailler qu'il faut réfléchir. C'est avant. Vous avez un chef d'entreprise qui ne fait jamais de travail au noir. Je veux dire, une fois par semaine, si c'est dans le bâtiment, je suis sûr que chaque semaine ou chaque 15 jours, il a un client qui lui dit, on peut pas faire au black pour que ça coûte moins cher. Mais si le gars, il sait qui il est, pourquoi il le fait, il réfléchit pas s'il faut le faire ou pas le faire. Il sait comment il vit, il sait qui il est, il sait que ça ne se fera pas. Vous n'avez pas la question à vous poser. Et c'est beaucoup plus facile de vivre au jour le jour comme ça. Amen. De la même manière, moi, dans mon métier, souvent on parle de la crise politique, la crise économique, et j'ai beaucoup de clients qui ont peur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le monde dans lequel on vit, vous n'êtes pas chrétien, vous avez toutes les raisons d'avoir peur. D'accord? Et c'est très facile, c'est facile pour facturer des honoraires, vendre un produit, de jouer sur la peur des gens. De jouer sur la peur des gens, c'est très facile. Et moi, je ne pense pas que Dieu fasse comme ça. Donc, du coup, dans mon métier, jamais je joue sur la peur des gens. Et même au contraire, je les rassure et j'ouvre d'autres perspectives. Mais jamais je joue sur la peur des gens. Alors que quand si vous êtes un commercial, si vous allez voir quelque part, tout le temps, on va vous dire, si vous loupez ça, c'est fichu. Vous ne retrouverez jamais un produit de cette qualité. Jamais un produit à cette condition-là. Parce qu'on joue sur le côté de chez vous qui fait « Ah, j'ai peur de le manquer. » Et Dieu, il ne fait pas comme ça avec nous. Amen. Dieu, il ne fait pas comme ça. C'est un bon papa. C'est un bon papa. Et si dans nos vies, on a l'impression parfois d'avoir peur de manquer quelque chose, Dieu, c'est un bon papa tout le temps. Et quand bien même, il y a une fois où je me suis trompé, si je me suis trompé, entre guillemets, de bonne foi, c'est-à-dire j'ai pas désobéi, j'ai pensé que c'était ça que Dieu voulait pour moi et je me suis trompé, mais Dieu, il arrive même à tout ça, à le remettre d'aplomb. Amen. Mais c'est beaucoup plus facile quand on sait qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et d'avoir la vision, les valeurs du royaume. Ma vie quotidienne est beaucoup plus facile depuis que je vis comme ça. Parce que j'ai pas souvent des questions. Parce que les questions, elles sont déjà traitées avant. Comme quand vous prenez l'autoroute de Montbéliard, vous vous demandez pas si vous allez sortir à tel endroit, vous savez où vous allez sortir. Ben, c'est la même chose dans ma vie tous les jours. Amen. Chaque nom que tu dis par obéissance à Dieu devient oui dans le ciel. Chaque fois qu'on dit non par obéissance à Dieu, ça devient un oui dans le ciel. Et vous dites non à certaines choses, même si ça nous coûte, et parfois ça nous coûte beaucoup, on sait que derrière, c'est un oui au ciel. Amen. Je vais essayer de passer à... Ouais, je regarde le... Je vous donne des exemples d'obéissance à Dieu, d'hommes et de femmes qui ont dit non. Je me suis fait un petit tableau. Vous l'avez derrière moi. Alors, on le passe ensemble. Et vous pouvez tout à fait aller relire les histoires pour nous montrer comment ils ont fait. Et moi, ça m'a encouragé parce que je pense, c'est avec Alexandre, le week-end dernier, on parlait de ça, il me disait, dans la Bible, il y a les réponses à tout. À tout, il y a les réponses. Alors, bien sûr, il n'y aura pas la référence du téléphone portable, parce que ça n'existait pas. Mais par contre, tout ce qui est l'addiction, ce que mes yeux peuvent regarder, etc., ça, il y a la réponse dans la Bible. Amen. Et donc, du coup, souvent, quand on se dit, ouais, mais c'est difficile de dire non, ben, tous ces gens-là, quand vous faites la liste et quand vous regardez à quoi ils ont dit non, c'est encourageant. Amen. Noé, en premier, il a dit non à la corruption du monde. Genèse 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les contemporains autour, ils n'étaient pas intègres, ils trichaient, ils étaient injustes. Noé marchait avec Dieu. Donc Noé, il a dit non à la corruption du monde autour. Joseph, évidemment, avec la femme de Potiphar, la tentation. Comment ferais-je, donc je vous lis le verset, Genèse 39, 9, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alors qu'il n'avait rien fait. Il a juste dit non à la tentation. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Moïse, il a refusé la gloire du monde. Rahab a refusé la loyauté au monde. La femme prit les deux hommes et les cacha. Elle dit oui, les hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Elle a dit non à son peuple pour dire oui à Dieu. Ruth, le retour, elle a dit non pour revenir à une vie d'avant, une vie en arrière. Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance est aussi coupable que la divination. On en avait parlé il y a quelque temps. Samuel, il a dit non à la désobéissance. Élie, il a dit non au compromis. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Michée, il a dit non à la flatterie. Ce que l'Éternel me dira, je le dirai. Peu importe la flatterie. Daniel, évidemment, non à la compromission. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Les amis de Daniel, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Esther, j'irai vers le roi malgré la loi et si je dois périr, je périrai. Elle a dit non à la peur. Néhémie, j'aime bien Néhémie. Je fais un grand ouvrage, je ne puis descendre. Parce qu'il reconstruisait la muraille et le travail serait interrompu. Il a dit non à la distraction. Vous imaginez la scène? Il dit non, je ne peux pas descendre, je continue mon job. Néhémie. Jean-Baptiste, il a dit non à l'hypocrisie religieuse. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Marie, elle a dit non à la peur et à l'incompréhension. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Jésus, évidemment, il a dit non notamment au diable et à la tentation. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pierre et les apôtres, on vient de le lire, il a dit non à l'interdiction de prêcher. Paul, il a dit non au compromis à la chair. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je traite durement mon corps. Jean, il a dit non à l'idolâtrie. Petits enfants, gardez-vous des idoles. J'en ai juste 18, en cherchant, mais pas trop longtemps. Donc, quand on, et c'est dit avec toute l'affection qui me caractérise, quand on me dit c'est difficile de dire non, je dis oui, c'est difficile. Et je pense que ça s'apprend. Mais quand on lit le témoignage de ces gens-là, à quoi ils ont dit non, ces hommes et ces femmes de Dieu, c'est des exemples pour notre vie de tous les jours. Amen. Troisième point, dire non, c'est se procurer une grande liberté, une grande paix. Et honnêtement, depuis que j'ai... Alors moi, ça a vraiment été une formation, ça a pris du temps. Mais depuis que je sais dire non, réellement, j'ai une paix et une liberté que je n'avais pas connue avant à ce point-là. Et je nous encourage vraiment à ce que nous puissions tous la vivre. C'est marcher dans la vérité. On lit Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Jésus nous appelle à la clarté, à la cohérence. Quand tu dis oui alors que ton cœur dit non, tu trahis ta paix intérieure. Ça, je l'ai déjà dit et il faut vraiment veiller là-dessus. Mais quand tu dis non avec amour, tu marches dans la vérité. Parce que quand on dit non, ça ne veut pas dire un non tranchant et c'est fini. Mais on peut dire non avec amour, avec vérité. Et vous allez voir, Dieu, il prend soin de l'autre personne aussi. D'accord ? Dieu va peut-être envoyer quelqu'un d'autre pour répondre à la demande de l'autre, etc. Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Un vrai chrétien ne dit pas oui pour paraître gentil. J'ai l'impression que dans nos milieux, on a tendance à dire oui par sentiment de culpabilité. Et ça, il faut veiller contre ça. La culpabilité, ce n'est pas les principes du royaume de Dieu. Amen. Alors, je me permets une petite blague. C'est que dire non, je pense que la plupart, on y arrive avec l'argent. C'est que je parlais de ça cette semaine avec un frère, c'est que les missions qu'on pourrait soutenir, elles sont extrêmement nombreuses. J'en suis juste quelques-unes. Porte ouverte, l'église persécutée. L'abolition de la torture, l'ACAT. Le sel qui fait énormément d'aide pour les enfants en difficulté. Le Mercy Ship, vous savez, c'est un gros bateau où il y a les soins qui fait le tour du monde. Et la liste comme ça, je peux vous la développer tant que vous voulez. Chrétiens, témoins dans le monde, les hommes d'affaires de plein d'évangile. La liste, elle est comme ça. Elle peut être longue comme ça. Et pour autant, je me permets, je pense que tu ne te donnes pas à chaque œuvre. Oui, je pense. Et merci Seigneur pour ceux qui donnent, etc. Mais comme là, c'est bizarre parce que sur ce sujet-là, on arrive à dire non. Vous me suivez ? Là, on arrive à dire non. Parce que là, on le voit tout de suite ce que ça coûte. On le voit tout de suite et puis on n'a pas forcément, on n'a pas des ressources illimitées, etc. Et je pense que Dieu nous met parfois, certaines œuvres à cœur et on les soutient. Et merci Seigneur et Alléluia et Amen, etc. C'est pas le sujet. Par contre, toutes ces œuvres, si on culpabilise un peu, on pourrait dire qu'il faudrait donner un peu à toutes. Enfin, en tout cas, à toutes. On est d'accord ? Et là, nous arrivons à dire non. Ça veut dire que quand on se rend compte de ce que ça coûte, parfois on y arrive. Oui ? Amen ? Un vrai chrétien dit pas oui, ça je l'ai déjà dit, pardon. Quand tu n'oses pas dire non, et là je vais continuer, quand nous n'osons pas dire non, on vit dans la peur du rejet. C'est pour ça, parfois, qu'on n'ose pas dire non. Tu vas dire oui à tout, mais du coup, ton cœur va être épuisé. Et ça, je pense que ce n'est pas bon. C'est un faux oui. Tu perds ta paix intérieure. J'ai cherché des exemples où moi, j'avais pu dire oui alors que je ne voulais pas. Alors, au final, on n'a pas dit oui, mais je me rappelle, par exemple, un projet de maison. À un moment donné, on a visité une maison. Et clairement, vous dites, ça coche les cases, c'est bien, c'est pas mal, etc. Et au fond de moi, mais ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas. Et là, on aurait pu dire oui. Ça aurait été, je pense que ça aurait été catastrophique et j'aurais vraiment pas été bien. Et donc du coup, ne fais pas des faux oui. Amen. Un vrai chrétien, un chrétien authentique, il dit oui quand Dieu dit oui et il dit non quand Dieu dit non. C'est facile l'évangile, c'est très facile. Le Saint-Esprit nous conduit dans la liberté intérieure et cette liberté se manifeste dans notre capacité à dire non. Un non prononcé dans la vérité vaut mieux qu'un oui dit par peur. Je répète, un non prononcé dans la vérité avec amour vaut mieux qu'un oui dit par peur. Et autre chose, c'est qu'en fait, si on sait dire non, alors notre oui a beaucoup plus de valeur. Je reformule, si nous savons dire non, le oui, il a beaucoup plus de valeur. Parce que le verset nous dit que ton oui soit oui. Ben là, c'est oui. Parce que si je te dis oui, comme je sais dire non, c'est pas un oui par défaut. Ok ? Aujourd'hui, je sais que moi, dans ma vie avec Dieu, ou dans ma vie avec les frères et sœurs, ou dans mon travail, etc., aujourd'hui, merci Seigneur, j'ai énormément progressé là-dedans, Dieu m'a maturé là-dedans, et aujourd'hui quand je dis oui, c'est oui. Mais c'est un vrai oui, c'est pas un oui où je marche en reculant. Mais pour faire ça, il faut savoir dire non. Amen. Ton oui a plus de valeur, c'est pas un oui de culpabilité, ce n'est pas un oui, il faut le faire, c'est pas un oui contraint, c'est un oui, oui, je suis là. Et en fait, vous le voyez en fait, quand vous êtes avec les frères et sœurs, c'est que si c'est un oui contraint, les pieds comme ça, vous avez l'impression, arrête, tu vas abîmer le lino, tu vois, c'est tellement il frotte, c'est que le gars il vient reculant, il vient avec une demi-heure de retard, vous voyez que dans sa tête il n'est pas là, c'est pas un vrai oui. Et je pense que ça reflète pas la stabilité de Dieu. Amen. Car je sais que je peux dire non, donc si je dis oui, c'est que c'est vraiment oui et je suis vraiment là. Quand tu oses dire non à ce qui t'épuise, tu ouvres la porte à la paix du ciel. Et ça je le crois vraiment. Quand tu sais dire non à ce qui t'épuise, tu ouvres la porte et la paix du ciel. Amen. C'est pas un ensemble de décisions, je pèse mes mots, hein, mais c'est pas un ensemble de décisions qui fait de toi un disciple. C'est la vie de Christ en toi qui permet de décider facilement oui ou non. Je répète, c'est pas un ensemble de décisions. Moi, très souvent, je me suis dit, c'est un ensemble de décisions qui fait que je grandis avec Dieu. Je n'en suis pas sûr. Je crois que c'est la vie en Christ qui nous permet facilement de dire oui ou de dire non. C'est dans l'autre sens. Là où on pense que c'est l'arrivée de décider des choses, alors bien sûr qu'il faut décider de marcher dans la sainteté, dans l'humilité, dans l'amour de Dieu, etc. Bien sûr, mais en fait ça, c'est une chose. Par contre, si tu es avec Dieu, après les décisions sont beaucoup plus faciles à prendre. C'est le point de départ, c'est d'être avec Dieu. Amen. Et Jésus, c'est toujours notre modèle. Et quand vous lisez les évangiles, vous ne sentez pas que Jésus, il hésite. Vous imaginez la scène, vous n'imaginez pas un instant Jésus en train de réfléchir à ce qu'il faut faire ou ce qu'il va faire. Vous n'imaginez pas Jésus en train de se gratter la tête. Vous savez, comme dans les BD ou les cartoons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? Jésus, il ne faisait pas ça, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Et il savait dire non, il savait dire oui. Amen. Alors, comment apprendre à dire non? Et c'est très rapide. C'est d'abord chercher la volonté de Dieu, ça je l'ai déjà dit. C'est vraiment quand on cherche d'abord la volonté de Dieu, ben les choses elles se mettent en place, les choses elles s'alignent. Rappelez-vous, parce que les gens ne se rappellent que de l'image. J'ai vu l'autre fois quelqu'un qui m'a dit « Ouais, il était présent à ton prêche et il me sort juste l'exemple. » Mais il ne se rappelait de rien sur le fond, mais de l'exemple. J'ai dit « Oui, mais l'exemple, il est derrière pour avoir la réalité, la vérité, la réalité biblique. Sinon, l'exemple, il ne sert à rien. » Mais rappelez-vous de Montbéliard, l'autoroute. Je prends l'autoroute, voilà. Quand vous allez rentrer tout à l'heure, prenez pas une autre sortie pour montrer que voilà. Mais rappelez-vous de l'autoroute. Quand je cherche d'abord la volonté de Dieu, les autres choses, elles s'alignent, elles se mettent en place. Avant de répondre à quelqu'un, je me demande, Seigneur, est-ce toi qui veux que je dise oui? Est-ce toi que tu veux que je dise oui? Si ça vient pas de Dieu, bah je dis non. Mais je peux le dire avec tendresse, avec affection, avec amour. Amen. Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes ses voies, dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. La vie avec Dieu, elle est facile. Elle est légère. Amen. Sauf que quand on discute à gauche, à droite, avec les frères, avec les sœurs et en dehors, souvent elle est compliquée, la vie avec Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, il n'est pas chez Dieu. Enfin, il y a un problème. Il y a un défi. Et le défi, il n'est pas chez Dieu, il est chez nous. Amen. Le Seigneur, il aplanit nos sentiers. Connais tes limites. Même Jésus se retirait pour se reposer. C'est le passage qu'on a lu. Jésus se retire pour prier, pour être seul, alors qu'il y a la foule qui attend. Donc si Jésus le fait, à combien plus forte raison nous sommes appelés à le faire. Dis non avec amour et douceur. Je vous donne un exemple. Nous, c'était quoi? C'était pour Halloween, c'était le livre de lecture pour le fils, là, quand il était petit à l'école. Je crois qu'à un moment donné, c'était encore un truc sur les sorcières. Vous n'êtes pas obligé de brûler le livre. Vous pouvez discuter, enfin, devant l'instit, en tout cas. Vous pouvez discuter avec le professeur des écoles pour dire peut-être qu'on peut apprendre à lire sur d'autres sujets. Voilà, c'est des gens normaux, il faut juste discuter. Mais c'est vrai que quand vous commencez à avoir le livre sur la sorcière, vous avez Halloween, vous avez le truc, vous vous dites à un moment donné, le prof des écoles, il va me détester. Mais ça dépend comment vous présentez la chose, comment vous expliquez, est-ce que vous faites partie de la solution ou vous êtes juste là pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Amen. Tu peux dire non sans blesser, tu peux dire non en respectant l'autre. Le ton, la paix et l'amour comptent autant que la réponse. C'est sûr que si vous dites un non comme ça, ça va faire un froid. Mais le ton, la paix, l'amour avec lequel il a porté le non, ça compte autant que la réponse. Laissez le Saint-Esprit te guider, c'est la quatrième idée. Colossiens 3, verset 15, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Moi, aujourd'hui, ma paix avec Dieu, elle est tellement précieuse que les frères, et je me permets, elle est tellement précieuse, la paix que j'ai avec Dieu, en fait, que je ne permets pas à qui que ce soit de venir embêter cette paix. Amen. Parce que vous n'avez pas envie, alors c'est moi, mais c'est pareil, ça s'applique à tout le monde, vous n'avez pas envie d'avoir un pasteur qui est complètement à l'ouest parce qu'il ne va pas bien. Donc moi, ma paix avec Dieu, je la préserve. Et je nous encourage à faire pareil. La paix avec Dieu, alors je ne vais pas dire, il n'y a rien de plus, ça fait partie des choses les plus précieuses. Amen. Et je la protège énormément. Et parfois les gens, parce que ma femme qui me dit de temps en temps, on a l'impression que tu es froid avec les gens et tout. Je ne suis pas froid, j'ai été traumatisé par 15 ans de contrôle fiscal, déjà c'est le sujet, mais aussi... Parce que ma paix et mon, je sais pas comment dire, ma vie privée, ma vie avec Dieu, je la chéris. Et je veux pas qu'elle soit bouffée par le reste. Amen. Et quand on chérit ça, vous allez voir, quand on chérit ça, tout ce que vous allez entreprendre marche 10 fois mieux. Ça marche 10 fois mieux en faisant moins, en faisant différemment, les choses s'alignent. Surnaturellement, les choses s'alignent parce que vous êtes dans la pensée de Dieu. Je le reformule. Vous êtes dans la pensée de Dieu, nous sommes dans la pensée de Dieu, nous sommes dans la paix de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Les autres choses, elles s'alignent. Amen. Apprendre à dire non. En conclusion, apprendre à dire non, ce n'est pas refuser d'aimer, c'est choisir d'aimer avec sagesse. Et ça, je le crois profondément. Dire non, c'est pas refuser d'aimer. C'est choisir d'aimer avec sagesse. C'est dire oui à Dieu. C'est dire oui à la paix de Dieu, à la vérité de Dieu. Amen. On reprend le chant. Je vais juste... On peut se mettre debout, je vais juste prier par rapport à ce qu'on a partagé. S'il y a des gens qui ont besoin de recevoir la prière, il y a une des équipiers de prière, vous vous avancerez à la fin quand on commence le chant. Je vais juste prier par rapport à ça, que le Seigneur nous aide. Ne gardez pas juste un message en se disant c'est un dimanche de plus, c'est un message de plus. Vraiment, c'est des messages où je nous encourage à y réfléchir durant la semaine. Et vous allez voir les circonstances. Peut-être que des circonstances que vous n'avez pas prévues vont arriver très rapidement. Et vous dites, je dois dire non, je dois dire oui, je ne sais pas dire non. Et là, vous vous rappellerez l'autoroute de Montbéliard. Amen. Seigneur Jésus, je te prie de nous apprendre à... Apprends-nous, Seigneur, à dire non. Apprends-nous à rester concentrés sur ta mission, Seigneur Jésus. Merci pour la paix que tu procures. Je te prie que cette paix soit évidente chez mes frères et sœurs. Je te prie pour les circonstances que vivent mes frères, mes sœurs qui sont compliquées. Et je te prie, Seigneur Jésus, que surnaturellement ta paix descende dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Et vraiment, Seigneur Jésus, tu les mets à part. Merci parce que tu nous as mis à part. Merci parce que tu as mis ton Église à part pour juste, Seigneur, que ta présence coule à travers nous. Apprends-nous à dire non et apprends-nous, Seigneur Jésus, à dire le oui de Dieu, le oui qui veut dire qu'on s'attend à toi, Seigneur Jésus. On s'attend encore à toi, Seigneur Jésus. Amen.